Marie-Nicole Lemieux, il faut quand même que je dise un mot, puisqu'on a entendu votre voix il y a maintenant quelques instants. Vous êtes quand même une chanteuse lyrique. On l'a entendu déjà.
Vous trouvez?
On l'a entendu. On n'a pas entendu dans l'air de
l'Alexandre. Je trouve que j'ai une chanteuse, lyrique à 7h du matin. Là, c'est pas glorieux.
Si, on entend la voix qui parle. Vous êtes une contralto. Alors, la contralto, il faut quand même le dire, c'est la voix la plus grave chez les femmes.
Voilà, c'est la voix la plus grave chez les femmes et la voix la plus rare aussi.
Et bien, en même temps, on entend votre rire qui monte très facilement dans les aigus.
Ça, c'est drôle parce que la plupart des sopranos, quand on parle, en fait, j'ai la voix parlée très aiguë, mais ça n'a rien à voir avec la voix chantée.
Qu'on va entendre, hein, bien sûr. On va
c'est plus comme ça.
On va l'entendre évidemment, mais j'ai quand même des aigus. J'ai une voix qui est contralto, mais j'ai toujours gardé la lumière dans la voix. C'est justement, si vous dites qu'on va m'entendre, on va l'entendre. C'est pas, j'ai pas une voix qui est caverneuse, disons. Voilà.
Je disais, on vous accueillait comme un soleil dans cette journée un peu grisonnante, hein, de la grisaille, de la Toussaint. Vous parlez de lumière dans votre voix, ça tombe bien. La dernière fois que nous nous sommes vus, oui. Marie-Nicole Lemieux, ça remonte un petit peu. C'était en 2013 à la Grande Table sur France Culture. J'ai vérifié,
oui.
C'était un jeudi de l'Ascension et déjà une partie de la France était sous la grisaille. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il fait gris, vous venez pour ensoleiller notre journée. C'est-à-dire que je vous mets un peu la pression quand même. Bon, Marie-Nicole Lemieux, vous êtes à l'affiche de Madame Butterfly,
oui.
L'opéra de Puccini, mm-hmm. qui se joue en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris, dans mm-hmm. une mise en scène de Robert Wilson, oui. Et sous une baguette de Giacomo Sagripanti. Oui. Et vous interprétez dans cet opéra fameux Suzuki.
Oui.
Suzuki, c'est la servante
exactement,
de Madame Butterfly.
Exactement, c'est la servante, c'est elle qui accompagne quasiment pendant tout l'opéra, Madame Butterfly. C'est aussi, c'est elle qui représente un peu le public. C'est elle qui représente la compassion. C'est elle qui est spectatrice de tout ce qui se passe et qui voit venir les choses, mais qui n'y peut rien, comme le public dans la salle. Donc, j'ai l'impression à chaque fois que je fais cet opéra-là, que je représente la compassion, justement, le public qui est sur scène.
Et ça vous va bien?
J'adore faire cette œuvre-là. Évidemment, c'est pas pour le chant. Disons que le grand rôle de cette opéra, c'est vraiment Madame Butterfly parce qu'elle est là du début à la fin. Mais j'aime faire Suzuki. J'aime justement cette opéra qui me demande de jouer. Justement, parce que souvent, je suis sur scène sans chanter. Et ça, j'aime ça parce que ça fait appel à mon côté dramatique, mon côté comédienne que j'aime. Et donc, et la musique est superbe. Et je vous avoue que c'est quand la dernière, c'était mercredi. Ça faisait quand même un mois que je l'avais pas fait. Donc, j'ai fait les deux premières représentations et je suis partie faire une tournée au Québec. Et là, je suis retournée sur scène et en sortant de scène à la fin, je me mets mais à pleurer comme une Madeleine, pardon Madeleine, mais je les aime beaucoup, mais bon, je pleurais. Et ça m'a prise. Et là, les gens sont arrivés dans les coulisses, ça va Marie-Nicole? C'est cet opéra, ça vient me chercher à chaque fois. Et à chaque fois, la musique m'emporte, c'est une force. Le thème de la femme, oui, qui est trahie, mais qui fait le sacrifice de son enfant. Ça vient me chercher. Je trouve que c'est ça ne prend pas une ride. C'est non seulement cette musique-là, mais cette mise en scène-là aussi qui est superbe.
Parce que c'est vrai quand même que c'est une histoire triste à mourir, l'histoire de Madame Butterfly. C'est une femme, pour le dire à nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire. C'est une femme qui se croit toute jeune. Hein, elle a 15 ans.
Elle est en fait une geisha. Donc, mais
ça se passe au Japon.
Au Japon. Et elle chante pour... et donc, à l'époque, donc les Américains... donc, c'est pendant le 19e siècle, il y avait des soldats américains qui venaient souvent. Et elle se marie avec un jeune soldat américain. Et elle y croit, mais elle y croit. Elle est certaine qu'elle se marie pour de bon. Mais il y a une coutume qui dit... Au Japon, quand un homme quitte la maison, c'est comme si c'était un divorce. Et il y a beaucoup, beaucoup, et ça c'est un fait véridique, il y a beaucoup d'hommes étrangers qui ont profité de cette situation-là pour vivre la belle vie avec une femme. Et quand ils quittaient la maison, ben voilà, elle était abandonnée. Et là, Pinkerton dans son cas, donc il est avec Butterfly. Butterfly est complètement amoureuse. Il part, mais il lui laisse de l'argent. Et donc, elle, dans sa tête, il va revenir. Elle l'attend au bout de 3 ans et lui revient avec une femme mariée et il vient réclamer son fils. Vous imaginez? Donc, elle, elle a tout perdu parce qu'elle a perdu son honneur, parce qu'il y a plein de gens qui lui ont demandé en mariage. Elle a dit non, je suis une Américaine. Et tout le monde lui dit, mais attends, mais c'est pas sérieux ton mariage. Mais elle, elle y croyait. Et donc, sans honneur, sans fils, elle accepte de donner son fils parce qu'elle sait qu'il va, c'est ce qui est terrible, elle le sait que son fils va vivre une vie meilleure avec son père aux États-Unis. Et donc, elle fait le sacrifice. Et évidemment, en bonne japonaise, avec l'honneur, on s'arrakiri à la fin. Et donc, elle se suicide.
On ne le voit pas sur scène, hein?
Sur scène, non. Non, non, cette mise en scène-là, on ne le voit pas. Quelquefois, les mises en scène, on le voit. Mais de toute façon, ça n'enlève rien à la dureté du sujet et à la force des émotions.
Et c'est ce qui fait de Madame Butterfly un incontournable oui. du répertoire lyrique. Mmh. Il est essentiellement connu pour un air fameux, oui. l'un oui. des plus intenses, hein, Marie-Nicole Lemieux, de l'histoire de l'opéra, qui ouvre le deuxième acte. On va l'écouter oui. dans une interprétation de Mariella Freni.
Ah.
Ne pleurez pas, Marie-Nicole Lemieux. Mirella Freni, donc, interprétant une belle Dirvedremo. Un jour, il reviendra. Elle s'adresse à vous, Suzuki,
exactement,
en disant ça.
Exactement, parce que je lui dis, non, il peut pas revenir. Tu le sais, les hommes étrangers ne reviennent pas. Et elle me dit, non. Et elle commence cette ère-là. Qui sera? Et à la fin, elle le dit, tu vas voir, il va sortir d'un petit point de la ville, il va monter vers la maison. Et elle dit, moi, je vais me cacher. Parce qu'à la fin, quand elle fait, per non morir. Parce qu'elle dit, je vais mourir quand je vais le voir de bonheur. Et je vais pas, donc c'est toute la passion de cette femme-là. Et en même temps, la retenue un peu qu'on dit à la japonaise, cette espèce de, ah, donc c'est magnifique. Ça vient me chercher à chaque fois.
Quelle place a Puccini dans votre propre répertoire, qui est extrêmement vaste, oui. il faut quand même le rappeler à nos auditeurs, de Vivaldi à Mozart, de Handel à Schumann, de Verdi à Gluck, de Berlioz à Rossini, de Claude Debussy à Reynaldo Hahn. Ouais. Bon, quelle place occupe Puccini?
C'est une place, disons, de mélomane au départ. Ce fut un de ceux que, par exemple, quand j'étais au secondaire, j'avais acheté le CD des meilleurs extraits. Et donc, par plaisir d'écoute, j'aime beaucoup Puccini. Évidemment, dans les rôles que je peux chanter, c'est très réduit. Je peux faire Suzuki, je peux faire la Tita dans Janis Kiki, la méchante Dia Principessa dans Suor Angelica, et À part ça, j'ai rien. Donc, c'est un peu triste parce que rien dans Turandot, rien dans La Fanciulla dell'Ovest. Alors, voilà, je me rabats sur ces trois opéras-là. Et puis, voilà, c'est un plaisir, disons, de mélomane. C'est un compositeur qui vient me chercher dans les, qui vient nous chercher dans les émotions, mais dans les émotions, je dirais, dramatiques, mais de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas des drames, c'est pas des rois, c'est pas des reines, c'est des gens du peuple. Butterfly est une petite, est une fille humble. C'est pas, c'est, et Pinkerton aussi, c'est pas des gens riches.
Pinkerton, c'est l'officier.
Oui, américain. Voilà, exactement. C'est des gens, de la classe moyenne, de la classe ouvrière. Et c'est d'autant plus merveilleux que qu'il est transposé dans une musique si grandiose, des drames que l'on vit, que l'on peut vivre encore tous les jours, ces drames-là. Et c'est ça qui est beau. Il y a une modernité, il y a une justesse dans l'émotion qui me touchera toujours.
Avec des variations lyriques très, ouais. très riches,
des vagues, des voilà.
Voilà, il y a plusieurs vagues. Et en particulier, il y a un moment de la musique que vous aimez particulièrement, Marie-Nicole Lemieux. Il s'appelle Coro a bocca chiusa, c'est-à-dire le cœur à bouche fermée. On va en écouter quelques notes et puis vous allez me dire pourquoi vous aimez particulièrement ce moment. Ce cœur à bouche fermée.
C'est un moment de beauté, c'est un moment d'arrêt dans cet opéra-là. C'est un peu l'ovni parce que durant tout le reste, à partir du début, il y a un ensemble au début au mariage, mais c'est très, il n'y a pas d'autres cœurs. Et donc, ce cœur à bouche fermée arrive à un moment où il y a un long, j'allais dire. Vous savez, une scène où c'est fermé, un long huis clos avec Suzuki et puis Butterfly et son enfant. Et là, c'est le moment d'espoir de Butterfly. Elle a entendu le canon du port qui annonce que Pinkerton s'en vient. Elle ne le sait pas qu'il vient avec sa femme, mais elle est pleine d'espoir. Le public le sait qu'il reviendra pas. Mais pendant ce moment-là, c'est la nuit qui commence et Suzuki et Butterfly s'installent devant la fenêtre avec l'enfant et ils attendent Pinkerton. Et ce cœur arrive comme ça, plein de beauté, une espèce d'interlude, de pause, de calme avant le drame.
Avant la tempête, précisément. Alors la tempête, on l'entendait tout à l'heure dans Vivaldi, avec cette Judith triomphante, Marie-Nicole Lemieux. Vous disiez, quand on entendait Vivaldi tout à l'heure, que vous étiez passé à autre chose.
C'était plus... Je dis ça, mais je vais revenir à Vivaldi dans une tournée le mois prochain. Mais disons que j'entends ça, mais on dirait que ça devient de plus en plus loin de moi. C'est cette espèce de frénésie baroque. Il faut aller plus vite et plus vite et plus vite et plus vite et plus vite. Il y a quelque chose que... mais j'aime entendre ça en tant que spectatrice. Je l'entends, ça me stimule. Mais pour moi, je me dis... je m'en vais vers autre chose. C'est-à-dire que maintenant, je pense que quand je vais retourner à Vivaldi, ça va peut-être être moins hystérique. Ben, je ne dis pas que c'est hystérique, là, parce que Léa, elle a les vocalises. J'ai toujours trouvé que je n'avais pas assez de vocalises rapides pour faire de la musique baroque. Donc, c'est toujours cette espèce de sentiment d'imposteur qui arrive quand j'entends ça. Mais bon, tout ça pour dire que oui, c'était quand je fais par exemple Suzuki que là la voix prend l'ampleur dans le théâtre et que je sens que j'ai le temps de chanter, je sais pas, de respirer. Vous voyez ce matin quand Léa chantait, il y a presque pas de temps de respirer, il y a une urgence tout le temps. Et ça, je dois dire, avec le temps,
vous calmez un peu, quoi.
Oui, puis je me dis, des fois, je sais ça.
Ça, j'ai pas bien compris ce que ça veut dire.
Ça veut dire, j'aime ça avoir le temps de respirer. ça veut dire.
On parlait des vagues. Et c'est justement les vagues qui ont inspiré le disque que vous venez de sortir, qui vous fait respirer, puisque vous avez chanté là où les mers, les mélodies que vous aimez beaucoup chanter du 19e siècle, tout inspiré donc par l'élément aquatique, hein,
exactement,
ces mers,
M-E-R,
entre parenthèses S. Ouais. On y trouve les Sea Pictures d'Edouard Elgar, le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, et puis la mer de Victorin de Joncière. On va écouter l'épilogue, puisque c'est une trilogie, l'épilogue de la mer de Victorin de Joncière, et vous allez nous parler de ce disque ensuite, Marie-Nicole Demieux. On est dans le calme après la tempête.
Voilà, exactement.
Vous avez pris le temps de respirer. Alors, pourquoi la mer?
Parce que au départ, c'était Ernest Chausson. C'était l'œuvre centrale, c'était le poème de l'amour et de la mer que je désirais faire depuis longtemps. Et donc, autour, j'aime bien avoir, quand je fais un enregistrement, avoir un fil conducteur, un thème, une logique. Et puis voilà, il y avait les Sea Pictures d'Elgar, qui pour moi étaient devenues une évidence. Et donc, grâce à la Palazzetto Bruzane, le centre de musique romantique française, ils nous dénichent des choses mais absolument merveilleuses. Et ils nous ont apporté cette œuvre avec chœur et mezzo-soprano de Joncière. Et c'était parfait parce que ça résumait
exactement... C'est une petite pépite, hein, c'est
exactement
une petite découverte.
Exactement, ça, et ça résume ce qu'on a vécu dans le disque. Donc, les Sea Pictures qui sont des tableaux qui se passent près de la mer. On pleure, on rit, on chante. Et avec Chausson, c'est vraiment, pour moi... C'est le fait d'être sur le bord de la mer et il y a une introspection qui fait, et c'est vraiment le temps, ce qui est passé ne reviendra plus. Et c'était très, pour moi, c'est, vous savez, le temps des lilas, justement, avant juste le temps des lilas, donc dans cette œuvre-là, il y a un moment où il dit l'oubli. Il parle de l'oubli. De me penchant vers elle, je pus lire ce mot fatal écrit dans ses grands yeux, l'oubli. C'est-à-dire qu'il voit que cette personne l'a oublié et que le temps béni où il s'aimait, c'est terminé. Et ça ne reviendra plus. Et pour moi, ça m'a touchée beaucoup parce que dans ma famille, il y a de la démence, il y a de l'Alzheimer. Et puis, ça a été très important pour moi de faire cette pièce-là. Et c'est drôle parce qu'avant, je la faisais toujours avec une histoire amoureuse derrière ça. Elle m'aime, elle ne m'aime plus. Mais là, il y a pour moi, dans ce disque-là, il y a vraiment une charge... Ça reviendra plus. Et donc, ça me fait du bien de l'entendre et de l'avoir aussi donné. Sans avoir, là, je le dis ce matin, mais je ne l'ai pas expliqué à tout le monde. Mais pour moi, dans l'œuvre de Le poème d'Amour et de la mer, c'est cette charge-là que j'ai donnée, personnelle. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà.
Tant mieux.
je vous
ça nous fait plaisir
ce matin.
Que vous avez fait du bien. Marie-Nicole Demieux.
Et je ris. Ouais.
Vous allez revenir. On fait juste une petite parenthèse. Ouais. Le temps que vous respiriez. Contralto, Marie-Nicole Lemieux est avec nous ce matin et nous en sommes ravis. On n'a pas besoin de préciser donc que vous venez du Canada,
oui,
du Québec.
Oui, on l'entend bien,
on l'entend bien. Vous aimez beaucoup, on l'entend, la musique classique dans, oui, dans tous les énormément. Siècles de l'histoire de la musique classique, mais vous aimez pas seulement la musique classique, vous aimez aussi le jazz, vous aimez aussi le rock, vous aimez aussi la variété.
Oui.
Et ça, la scène musicale du Québec en ce moment, c'est une scène qui bouge beaucoup, qui
vous
plaît?
C'est une scène qui bouge beaucoup, c'est une scène où les femmes prennent le contrôle du rock et c'est génial. Il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs que j'aime énormément et c'est ça, au Québec, je m'excuse les Français, mais on sait faire rocker le français. Et donc, ça rock en français, ça swing, ça balance. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Vous n'avez pas envie d'en faire, le rock?
Oh non, moi je danse, c'est bien assez.
Vous dansez sur le rock?
Oh oui, moi je danse sur le baroque, beaucoup aussi de la musique classique. Ça, c'est bien important pour moi. Dans le baroque, si la pièce ne balance pas, ça marche pas.
Il n'y a pas de rock, mais vous dansez quand même. Hein?
Oui, exactement. mais en fait, la danse est très... c'est un art que j'aime beaucoup. Et donc, oui, même aussi côté techno, côté jazz, côté country. Vous dites country, mais sinon, on dit la musique country. Et puis, oui, c'est assez vaste, mon éventail de musique que j'aime. Et ça me plaît. Je pense que ça enrichit. Tous les styles enrichissent ce qu'on fait.
Marie-Nicole Lemieux, vous ne vous en souvenez sûrement pas.
Et mon Dieu, dites-moi ça.
Attention, mais quand vous êtes venue à la Grande Table en 2013, à la fin de l'émission, vous aviez fait une promesse. Vous aviez dit que vous avez dit ça quand on s'était quitté.
Oui.
Quand vous reviendriez, vous chanteriez pour nous Nana Mouskouri. Que vous écoutiez beaucoup quand vous étiez enfant.
Oui, mais là, parce que je vous ai pas dit que c'était à 7 heures du matin. Là.
Ah ben non, c'était pas 7 heures du matin, mon frère.
Non. Mais c'était Nana Mouskouri, mais c'était Rose blanche de Corouf. Ah, j'ai une voix de terrette, je vais le descendre un petit peu. Parce que Rose blanche de Corouf. Rose blanche, chaque nuit je pense à vous. Rose blanche de Corfou.
Merci beaucoup, j'ai envie d'applaudir. On applaudit de l'autre côté, de la ouais,
minute,
mais j'ai un peu
tout
seul, mais c'est pas grave.
Seigneur.
Merci beaucoup, parce que là, c'est vraiment totalement improvisé, je dois
oui,
le dire.
Oui, exactement,
je vous ai
j'avais
vraiment
des
pas prévenu.
Je le fais parce que c'est terrible, mais bon, je vais vous en vouloir jusqu'à la fin de la vie.
Oh non, je pense pas, parce que vous allez recevoir des mails d'amour des auditeurs et des auditrices.
J'espère, soyez indulgents.
Vous aimez beaucoup chanter des poèmes, des mélodies françaises, des Baudelaire, par exemple, en particulier.
Oui, justement, j'ai fait une tournée autour de Baudelaire avec un comédien. J'aime la poésie. Par exemple, là, je vais faire le 15 novembre un récital à la Monnaie à Bruxelles autour de Goethe et Baudelaire. Et c'est un programme qui est fantastique, que j'ai monté, qui est très exigeant, mais qui est vraiment riche. On part de Schumann, de Schubert, de Beethoven, de Fanny Anselm, Wolf, Duparc, Fauré, Debussy, Déodat Sévérac, Charpentier, Chausson. Et on fait vraiment, on avec les deux grands poètes romantiques, dont un allemand, l'autre français, il y a une quête, on se rend compte qu'il y a toujours une quête dans le romantisme. C'était genre cette espèce de sensation de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Cette espèce de, il y a un endroit où je serai plus heureux. Par exemple, dans la vie antérieure, c'est là que j'ai vécu. C'est là que j'étais bien. C'est pas maintenant. L'albatros, le poète est comme le prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'été. C'est vraiment, et même aussi avec Goethe, connais-tu le pays? Donc, c'est ça que j'explore. Mais bon, voilà, je
parle trop.
Oui, je sais, oui, c'est avec les mains, avec les bras, avec tout.
Et comme votre amour de la musique est infini, vous êtes venu avec une chanson.
Ah oui, ce matin.
Très jolie chanson de Lucienne de Lille sur les quais du Vieux Paris.
Oui. Alors là quand j'ai entendu cette pièce-là pour la première fois, mon cœur a frémi. Ça faisait, je crois, 8 mois que j'étais pas venue à Paris. Et j'entends ça. Et j'avais l'impression, au soleil, de me balader. Et c'est tout ce que... Je sais pas s'il y a une odeur... premièrement, la voix de Lucienne de Lille. L'harmonisation de cette mélodie-là, je trouve ça absolument charmant.
Sur les quais du Paris, Lucienne de Lille.
Ah oui.
Quand doucement tu te penches en murmurant ces dimanches, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent et dans un même sourire nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine.
Vous chantez un peu. Le
bonheur. Non. Je chante ce soir, vous savez.
Oui, c'est vrai. Il faut quand même ménager votre voix. Oui. Merci beaucoup.
Merci
d'être
vous.
Venue ce matin, Marie-Nicole Demieux. Madame Butterfly, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 13 novembre, mais il reste très, très peu de place. Alors, bon, on peut se consoler en écoutant les enregistrements par
oui,
Mireille Afrémy, par
de
exemple.
Place, mais il y a beaucoup quand même de représentations, donc peut-être il reste encore
six représentations. On peut chercher. Bon, parfois, des prix sont un peu élevés, mais on peut essayer. Voilà. Et puis, on peut aussi écouter votre disque à vous, hein.
Oui.
Mère, j'ai Rato parmi les nombreux disques que vous avez enregistrés. Un grand merci.
Merci à vous. Et puis, bon week-end à tout le monde.
Et 7h40 sur France Culture. Tout de suite, c'est la Fabrique médiatique.